Voilà, donc, vous savez, nous avons entamé une série depuis le dimanche déjà sur les paraboles du royaume dans Matthieu 13. Nous avons vu déjà donc, les cinq premières paraboles avec, il y a deux semaines avec Eric et la semaine dernière avec Michael. Et nous concluons cette troisième partie des paraboles. Non, nous en avons vu, qu'est-ce que je dis, cinq, nous en avons vu quatre. Et nous concluons cette partie des paraboles par le chapitre 13 à partir du verset 44 à 53. Alors, ça n'avance pas. Voilà. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela ?»« Oui, » répondirent-ils. « Oui, Seigneur, » répondirent-ils. Il leur dit, « C'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut fini de dire ses paraboles, il partit de là. » Je vais juste me mettre un petit peu mieux en hauteur, voilà. Alors, dans ce qui a caractérisé les paraboles précédentes, les deux parties précédentes, Jésus a longuement expliqué en privé ses paraboles aux disciples, en particulier la parabole du semeur, hein, que nous avons vue il y a deux semaines, et la parabole de la mauvaise herbe, vue la semaine dernière. Ici, aucune explication, ni privée, ni publique. Il semble qu'on soit encore en petit comité, dans le prolongement de la situation du verset 26, hein, c'est-à-dire qu'il nous décrivait comme le Jésus et ses auditeurs dans une maison, la foule ayant été renvoyée. Et puis, comme une conclusion à ces sept paraboles, donc qui constituent les paraboles du royaume, petite allusion un peu énigmatique avec la notion de choses nouvelles et de choses anciennes. Alors, je ne m'étendrai pas beaucoup sur la parabole du filet, tant elle semble parallèle à celle de la mauvaise herbe. Vous aurez, je pense, trouvé vous-même le parallélisme, mais je ne veux pas dire qu'elle ne devrait pas se trouver ici. Il y a même un sens très logique à ce qu'elle soit là, puisque elle nous, à la fin de ces paraboles, elle nous projette dans ce qui arrivera au retour de Christ, à la fin des temps, au moment du jugement. Et d'ailleurs, bien qu'on pourrait la qualifier de parallèle à la parabole de la mauvaise herbe, elle est beaucoup plus axée sur le tri que cette dernière, et beaucoup moins sur la cohabitation que nous connaissons actuellement entre le bien et le mal. Elle nous parle de ce qui arrivera à la fin des temps, alors que la parabole de la mauvaise herbe se situe prioritairement dans le temps actuel, celui de la croissance du royaume. Et donc, entre l'explication donnée par Jésus sur cette parabole de la mauvaise herbe et la parabole du filet qui se trouve insérée dans notre texte, nous avons les deux minuscules paraboles des versets 44 à 46. Et donc, la première parabole, donc, la parabole du trésor, verset 44. Ça vaut peut-être le coup de la relire. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Malgré cette petite taille, cette parabole a fait couler beaucoup d'encre. Et quand on essaye de se représenter la situation de cet homme, des questions surgissent. Un trésor caché dans un champ. Caché par qui ? Le propriétaire ? Ben non, puisque s'il ne vendrait jamais son champ pour le prix du terrain seul. Un ancien propriétaire qui serait décédé et dont le trésor serait tombé dans l'oubli. Et pourquoi c'est un homme qui n'est pas le propriétaire du champ, qui se trouve là et qui viendrait creuser comme ça, par hasard, c'est bizarre. Encore plus bizarre, pourquoi est-ce qu'il recache le trésor qui était déjà caché, plutôt que de repartir tout simplement avec le coffre sous le bras. Et plutôt que de cramer comme ça toutes ses possessions, tout ce qu'il a, pour acheter un champ qui ne lui sera ensuite plus d'aucune utilité. Puis, qu'est-ce que c'est que ces façons de faire, hein ? Question probité, on repassera. Quand j'étais enfant, quand j'étais enfant chez mes parents, il y avait un rituel bien rodé qui revenait chaque année, c'était la fabrication du sirop de cassis. Et chaque été, toute la famille était de corvée. Et quand je suis devenu un ado en pleine possession de ses moyens physiques, de mes moyens, la tâche la plus physique m'est revenue, à savoir le pressage. Oh purée, fallait y aller, hein. Purée, c'est le cas de le dire, hein. Je me retrouvais là, au milieu de cette masse gluante, hein, qu'il fallait presser jusqu'à la dernière goutte, fallait serrer de toutes ses forces pour extraire jusqu'à la dernière goutte de jus, avec l'idée, vraie ou fausse, je ne sais pas, que le meilleur se trouverait précisément dans cette dernière goutte. Et bien, avec les paraboles, en particulier celles que Jésus ne commande pas, c'est tout le contraire. Plus on les presse, et plus on se torture l'esprit à expliquer chaque détail, à faire correspondre chaque mot, à donner à chaque mot une signification, et plus on s'embrouille. Et surtout, on passe à côté de ce que Jésus a voulu dire et qui n'est pas du tout de cet ordre. Peu importe qui appartient le champ, peu importe de savoir qui a caché là un trésor, peu importe qu'il le recache pour acheter le champ, l'enseignement n'est pas là, l'enseignement est ailleurs, et c'est ce à quoi nous essayons de nous attacher. Et donc la règle pour comprendre ce genre de parabole, c'est de chercher le sens premier, le sens évident. Et nous avons donc un trésor caché, et nous avons un homme qui n'en est pas le propriétaire, mais qui va tout faire pour le devenir, au point même de sacrifier tout ce qu'il possède. Tout est là. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Le côté caché du trésor nous replonge dans le contexte de la prédication de la semaine dernière, hein, le secret du royaume. Le théologien George Ladd a ainsi défini le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu signifie le gouvernement ou la souveraineté de Dieu. La venue du royaume pour laquelle nous prions dans le Notre Père signifie que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, autrement dit, que son autorité soit parfaitement établie. Je cite aussi Matthieu Sanders, hein, que nous avons beaucoup cité, qui a servi un petit peu de point d'appui à cette série de prédications. Nous retiendrons ici que le royaume de Dieu n'est pas manifesté d'une manière qui s'impose à tous. Beaucoup ne perçoivent pas la présence de ce royaume. Il est pour l'instant caché, en tout cas partiellement. Un jour, ce royaume sera manifeste, visible, mais pour l'instant, le royaume dont parle Jésus s'apparente plutôt à une nouvelle manière d'être, de vivre dans le monde, à la lumière de l'action de Dieu. La parabole du trésor illustre le bouleversement, le renversement qui se produit chez celui qui prend conscience de la valeur immense de ce qu'il vient de découvrir. Au point que cette découverte fait perdre tout intérêt à ce à quoi il tenait jusqu'à présent. C'est un renversement cataclysmique de ses valeurs. Il n'y a même pas à calculer. D'une seule conclusion s'impose, je me croyais riche, mais je réalise que je suis pauvre. Je me croyais sur le bon chemin, et je faisais fausse route. Je croyais être dans la vérité et je me trompais lourdement. Nous avons là la description de l'homme saisi par la découverte du royaume, par l'annonce de l'Évangile, par le salut en Jésus, par la révélation de l'Église. Tout le reste passe au second plan, tant cette vérité s'impose à lui, ne pas la choisir, c'est ne pas l'accepter. Quelle folie! Et ce n'est pas la seule fois où Jésus place ses auditeurs devant un choix. Je me rappelle des textes qui m'ont personnellement, littéralement transpercé, alors que j'étais dans la situation de cet homme dont le pied vient de buter sur un trésor. Ce n'est pas moi, c'est celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. Celui qui ne rassemble avec moi disperse. Ouf, être contre Jésus. Se positionner devient prioritaire, je dirais presque irrésistible. Rien ne passe avant. Toute la vie semble subordonnée à ce choix, et elle l'est. Tout ce qui faisait ma vie jusqu'à cet instant va changer d'importance, et tout ce que j'attendais d'elle pour l'avenir est suspendu à ce positionnement. Et il est bien évident que ce n'est pas seulement le choix d'un instant, mais de toute une vie. Que va-t-il impliquer? N'est-ce pas un saut dans l'inconnu? À quoi me fera-t-il renoncer? Où me conduira-t-il? Nous avons évoqué les vocations, qui sait? Un choix s'impose. Peut-être j'aimerais ne pas avoir à choisir, j'aimerais peut-être ne pas avoir buté sur ce trésor, j'aimerais temporiser, différer, mesurer, peut-être relativiser. La valeur du trésor ne saute pas forcément aux yeux au premier abord. Alors je voudrais faire une parenthèse. La parabole nous décrit une scène qui se déroule manifestement sur un temps court, en tout cas le temps de la décision semble court. Aussitôt le trésor découvert, l'homme est rempli de joie et prend ses dispositions pour l'acquérir. Et il ne faudrait pas en déduire que toute appropriation du royaume de Dieu, toute conversion est aussi soudaine. Prendre conscience de la valeur du trésor peut prendre du temps, selon la culture et les préjugés spirituels qui nous ont formatés. Ça a été le cas pour moi. La parabole met le doigt sur la valeur du trésor et non pas sur le temps qu'il faut à l'homme pour l'évaluer. Elle ne nous dit pas, par exemple, s'il a compté les pièces, s'il les a sous-pesées, s'il a vérifié qu'il ne s'agit pas de fausse monnaie ou je ne sais quoi. Non, nous avons un homme qui nous est décrit parvenu à la pleine conscience de la valeur immense du trésor, peut-être même pleinement conscient que cette valeur dépasse tout ce qu'il pouvait concevoir. Nous avons tous un cheminement différent pour en arriver à ce stade, long ou court, droit ou sinueux, simple, compliqué, aisé ou douloureux. La soudaineté de la décision de l'homme de la parabole ne présume en rien de l'exigence d'une décision immédiate dès la première annonce du royaume de Dieu. Ce qui est au cœur de parabole, c'est l'appropriation par l'homme de la valeur du trésor, ce qu'il va produire dans sa vie. Mais c'est aussi ce qui fait le combat, son âpreté, sa dureté, une perception assez claire que rien ne sera plus comme avant, que les valeurs seront bouleversées. Et le contre-exemple à cette parabole, c'est le jeune homme riche. Il s'approche à ça du royaume de Dieu, mais son système de valeurs n'est pas remis en question. Le trésor du royaume ne vaut pas, à ses yeux, de perdre tout ce qu'il possède ou croit posséder, car en fait, ce sont ses richesses qu'il possède et qui président à ses choix. Je ne sais pas si, peut-être vous vous souvenez, pour les plus anciens, vous avez entendu parler de cet avion uruguayen qui est tombé dans les Andes dans les années 70 et qui est resté plusieurs mois à très haute altitude, dans la neige, dans le froid. Et les passagers de cet avion ont dû trouver moyen de survivre, entre autres de se réchauffer. Et ils ont commencé à brûler tout ce qui ne leur servait pas dans l'épave de l'avion, les bouts de bois qui étaient dans les sièges, etc. Et puis, arrivé un moment où il ne restait plus grand-chose, ils ont brûlé des papiers, puis ils ont fini par brûler des billets de banque. Et ce qui signifie que la valeur dans ces circonstances-là, c'était des gens assez aisés, ils en avaient beaucoup, mais ils n'ont pas tiré beaucoup de calories de ces billets de banque. Les valeurs ont été bouleversées. Ce qui avait cours jusqu'à présent, la valeur de ce billet qui avait cours jusqu'à présent, ne se mesurait que maintenant en calories, et ce n'était pas grand-chose. Ça ne le rapportait pas, ça ne réchauffait pas beaucoup. Donc les valeurs sont renversées. Ce qui avait cours dans la vie d'avant n'a plus cours dans la vie nouvelle. Quand le royaume à venir sera établi, les valeurs terrestres n'auront plus cours. Et en attendant, ce qui nous est demandé en tant que citoyens de ce royaume, c'est de vivre d'une manière qui donne cours aux valeurs terrestres sur la terre. La deuxième parabole, c'est celle de la parabole de Grand Prix. Je vais la lire aussi. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Ça semble en fait être quelque chose de très proche de la précédente, hein, presque une redite. Un homme découvre une perle de grand prix et va vendre tout ce qu'il possède pour l'acquérir. On va quand même noter une différence entre les deux paraboles. Dans la première, la parabole du trésor, l'homme semble tomber sur le trésor d'une manière fortuite. Alors que dans celle-ci, celle de la perle de grand prix, il est clairement dit que l'homme cherchait de belles perles avant de trouver cette perle de grande valeur. Et nous avons sans doute là une illustration de la diversité des chemins et des dispositions qui conduisent les uns et les autres au royaume de Dieu. Combien de fois nous n'avons pas entendu des témoignages de personnes déclarant avoir expérimenté toutes sortes de spiritualités, de philosophies, de systèmes de pensée, parfois de longues années. Et contrairement au premier qui découvre un trésor dont il ne soupçonnait même pas l'existence, le second semble éprouver un manque. S'il cherche, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé. Trouver enfin la perle de grand prix est pour lui un dénouement, l'aboutissement d'une quête. Vu comme ça, ça semble idéal, sa voie semble toute tracée, voilà arrivé. Mais regardons-y de plus près, lui aussi va vendre tout ce qu'il possède, comme l'homme au trésor. Il va même vendre toutes ces belles perles pour lesquelles il avait déjà sacrifié énormément. Chacune de ces perles lui rappelle son cheminement, ici et là. Des personnes rencontrées peut-être, des pays visités, des communautés avec lesquelles il a fait un bout de chemin, sa famille, un amour de jeunesse, que sais-je. Toutes ces perles enfilées sur un collier dont il peut se parer le définissent, parlent de lui. Et il en est assez fier. L'apôtre Paul était de ces gens, toujours à la recherche d'un idéal voué à une cause, qui est persuadé d'agir dans le sens de la volonté de Dieu. Je paraphrase ici ce qu'il dit aux Philippiens. J'ai été circoncis le huitième jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, en ce qui concerne la loi, j'étais pharisien, du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Qui dit mieux ? Voilà le collier de perles, ce qu'était le collier de perles de l'apôtre Paul. Voilà qu'il rendait si fier. Mais je continue en transposant. Et je vais transposer dans ce que je vais dire, mais je vous affiche le texte en clair. Mais ces qualités qui étaient pour moi de belles perles, je les ai regardées comme sans valeur face à Christ. Et je considère même tout comme sans valeur face à cette perle de grand prix qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de toutes mes belles perles et je les considère même comme de fausses perles afin de recevoir pleinement Christ, son royaume, la perle de grand prix. Paul cherchait Dieu, indiscutablement. A-t-il pour autant été dispensé de faire un choix ? On pourrait penser que sa rencontre avec le Christ était l'aboutissement d'une longue quête et que voilà, enfin, il se trouvait dans la présence de celui qu'il avait toujours cherché. Oui, bien sûr, mais on a le récit de tout ce que sa rencontre avec Jésus a remis en question. Et on voit ici que le renversement des valeurs est autant d'actualité pour lui que pour le païen qui ne cherchait rien. Et donc ces paraboles présentent deux points communs. Premièrement, premier point, l'homme qui découvre fortuitement le trésor, tout comme celui qui découvre enfin la perle de grand prix qu'il cherchait depuis longtemps, parviennent tous les deux à la conclusion que la valeur de leur découverte dépasse tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Et deuxième point commun, l'un comme l'autre ont à prendre des dispositions radicales pour entrer en pleine possession de leur découverte. Et c'est cela qu'on appelle l'exigence du royaume. Rendre conscience de sa valeur et prendre position en sa faveur. Quel que soit le chemin qui nous a conduit à cet instant, l'instant est décisif. L'ennemi ne manquera pas de nous susurrer que ce n'est peut-être pas le bon moment. Il vaudrait mieux y réfléchir un peu, peser le pour et le contre. C'est malheureusement ce qu'a fait le jeune homme riche, et on connaît la suite. Mais ce que nous dit la parabole du semeur, que nous avons vu il y a deux semaines, ce n'est pas seulement l'affaire d'un instant. Ce n'est pas le tout que la semence germe, mais il faut qu'elle soit aussi protégée et nourrie pour croître et porter du fruit. Il s'agit donc d'une décision radicale pour un changement de vie radical. Si on va un peu plus loin dans la lecture du texte aux Philippiens que j'ai paraphrasé tout à l'heure, c'est également la conclusion qu'en tire l'apôtre Paul. C'est le combat de toute une vie, que de veiller à ce que le trésor conserve à nos yeux la valeur qui nous a tant impressionnés au début. Là où est ton trésor, nous dit Jésus, là aussi sera ton cœur. Alors concluons sur ces deux paraboles. Un trésor découvert par un homme qui ne cherchait pas. Une perle de grande valeur trouvée par un homme qui la cherchait. Les deux sont saisis par la valeur de leur découverte qui va, pour le premier, au-delà de ce qu'il imaginait et pour le second, au-delà de ce qu'il espérait. Les deux réalisent que ce qu'ils possèdent ne vaut rien à côté de ces découvertes et qu'ils ne peuvent pas passer à côté sans les acquérir. Et donc, il sacrifie tout dans ce but. Peut-être sommes-nous, ici, ce matin, dans cette église, à écouter les paroles de Jésus après un long chemin de recherche et de questionnement. Peut-être cette histoire de mauvaise herbe qui grandit dans un champ aux côtés de la bonne semence nous intrigue-t-elle ? Suis-je une bonne semence ou une mauvaise herbe ? Quelle espèce de poisson serais-je à la fin des temps, à garder ou à jeter ? La parabole du levain m'a-t-elle interpellé au sujet de ma propre croissance ? La parabole de Grand Prix n'est-elle bonne qu'à être enfilée à la suite des autres, sur le collier de mon parcours ? Ou au contraire, est-ce qu'elle a mis à mal mon échelle de valeur ? Alors, au terme de ce long cheminement de recherche, d'interrogation, pourquoi ne pas la saisir ? Et peut-être entendons-nous la parole de Dieu aujourd'hui pour la première fois. Ou peut-être n'est-ce pas la première fois, mais peut-être la première fois qu'elle nous touche au cœur. Comme une graine entassée dans un grenier qui vient soudain de prendre contact avec la terre. Comme la graine de moutarde qu'on vient de semer et qui ne demande qu'à grandir. Comme ce coffre presque entièrement enfoui sur lequel mon pied a buté. Quand on trouve un trésor qu'on n'a pas cherché, alors c'est que Dieu nous cherche. Pourquoi faire la sourde oreille ? Pourquoi laisser passer cette occasion d'entrer dans le royaume dont Jésus nous a tant parlé ? Le jeune homme riche néanmoins reparti tout triste et en rien libéré. Quelques mots sur les versets 51 et 53. Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela ?»« Oui, Seigneur, répondirent-ils. » Il leur dit, « C'est pourquoi tout spécialiste de la loi, instruit de ce qui concerne le royaume des cieux, ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Lorsque Jésus eut fini de dire ces paraboles, il partit de là. C'est un peu énigmatique, hein, vous en conviendrez. Ces histoires de trésors, de choses nouvelles, de choses anciennes, de quoi il parle, pourquoi ça vient en conclusion ici. Alors Jésus commence par demander à ses disciples s'ils ont bien compris son enseignement. Oui, Seigneur. En est-on sûr, hein, on n'est pas toujours sûr. Il y a des fois où on commence à entrevoir le sens de certaines idées, mais sans être quand même les avoir totalement assimilés, sans être totalement en mesure de les mettre en application. Et c'est vraiment à l'usage et à leur mise en œuvre qu'elles prennent tout leur sens. L'expression spécialiste de la loi, ou les scribes, hein, dans certaines traductions, nous place sans aucun doute sur le terrain des Écritures. Et je trouve que traiter ce texte, un jour où nous parlons des vocations, prend un sens savoureux, je m'en explique. Et peut-être c'est dans ce sens-là que je veux orienter une application. Jésus parle d'un spécialiste de la loi pour arriver à un maître de maison ou à un père de famille, selon certaines traductions. Le spécialiste de la loi, c'est l'homme versé dans les Écritures, rigoureux, pointilleux. Le maître de maison, le père de famille, c'est l'homme qui a dirigé sa maison selon les règles familiales, mais aussi à développer les capacités de chacun en prenant en compte leurs particularités, à veiller à l'unité et à la paix du foyer. Et là, je ferai, si vous voulez bien, un parallèle avec le monde de la justice. Le spécialiste de la loi, c'est le juriste. Il dit le droit dans toute sa rigueur, indépendamment de toute situation particulière. Et puis, vous avez le juge, qui va consulter le juriste et s'appuyer sur le droit, mais qui va aussi prendre en compte tout un ensemble d'éléments relatifs à la situation de la personne jugée, son histoire, des circonstances particulières, aggravantes ou atténuantes, sa capacité d'appréciation, et j'en passe. Et l'époque de Jésus était très versée juriste, loi, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi. Et ce que Jésus laisse entrevoir à travers ce contexte de choses anciennes et de choses nouvelles tirées d'un trésor, c'est la mise en place d'une nouvelle articulation dont il est le point charnière pour faire simple entre l'Ancien Testament et ce qui allait aboutir au Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Église naissante, sous l'impulsion des apôtres, on voit se développer un ministère qui prend plusieurs noms, évêque, ancien, pasteur, dont le rôle est de paître les brebis, ainsi que Jésus l'a confié à Pierre. L'Église a toujours besoin de docteurs pour sonder, interpréter les Écritures, les juristes. Mais ce sont les pasteurs, les juges, qui ont en charge de veiller à la bonne marche de l'Église, à son développement, à son unité et à sa paix. De même, ce sont les missionnaires, à l'instar des apôtres, qui ont en charge de devenir pêcheurs d'hommes afin d'implanter l'Église là où le royaume de Dieu n'est pas encore annoncé. Ainsi, les disciples de Jésus, en particulier les apôtres, vont avoir ce rôle de passer d'un modèle essentiellement légal, légaliste, au modèle de l'Église, qui signifie littéralement l'Assemblée, afin qu'elle incarne le royaume de Dieu sur la terre. Qui sait ? Qui sait si le trésor découvert inopinément, ou si la perle de grand prix tant recherchée ne débouchera pas sur un appel personnel de Jésus à devenir pêcheur d'hommes et à paître les brebis. Alors, si cette série de prédications sur le royaume a suscité dans vos cœurs, en vous, un élan particulier à s'engager dans le royaume de Dieu, ou si seulement vous vous sentez interpellé par les paraboles du royaume, mais que la nature du trésor et sa valeur vous échappe encore, ou encore si vous avez déjà saisi le trésor et si vous entendez un appel à vous engager dans le service pastoral ou missionnaire, alors n'hésitez pas à venir nous en parler aux trois prédicateurs que vous avez entendus sur les paraboles du royaume, Eric, Michael, qui est avec des jeunes de théologiques, ou à moi-même. Nous allons prier. Seigneur, ton enseignement est riche et nous saisissons avec ces paraboles à quel point la valeur nous échappe. Seigneur, aide-nous à nous rapprocher de ce trésor, à nous rapprocher de ton royaume. Conduis-nous, Seigneur, dans ton royaume. Conduis-nous dans les projets que tu as pour nous, dans ton royaume. Amen.